Chapitre 8. La visite de Patrick a été douce amère, dit Simone en posant sa tasse. Les deux heures que nous avons passées ensemble n'ont paru durer que quelques minutes. De la table où ils étaient assis, ils surplombaient la campagne vallonnée.
C'est principalement une illusion, précisa Michael. Mais on se croirait dans le Massachusetts ou le sud du Vermont.
J'ai l'impression de faire un songe, avoua Nicole. Nous avons eu la même réaction lorsqu'on nous a annoncé la venue de Patrick, dit Simone. Nous avons même pensé qu'il pouvait s'agir d'un simulacre. Nous lui avons posé des questions dont il était le seul à connaître les réponses.
S'ils avaient décidé de créer un robot à son image, il aurait été très difficile de se rendre compte de la supercherie,
commenta Michael. Mais j'ai immédiatement su que c'était mon frère. Comment l'as-tu trouvé?
Sans qui, Nicole?
La journée d'hier a été si chargée que je n'ai pu lui parler aussi longtemps que je l'aurais souhaité. Il était triste, mais convaincu d'avoir fait le bon choix. Plusieurs semaines lui seront nécessaires pour analyser tout ce qu'il a éprouvé au cours des dernières 24 heures. C'est valable pour chacun de nous.
Il y eut un court silence.
Es-tu fatiguée, maman? Patrick nous a parlé de tes problèmes de santé, et quand on nous a informé que tu avais été retardée cet après-midi, je me sens en effet un peu lasse, mais je sais que je ne pourrai pas dormir.
Elle fit reculer son fauteuil de la table.
Je voudrais utiliser les toilettes. Bien sûr, fit Simone en se levant. Je t'accompagne.
Elles suivirent un couloir au sol recouvert d'un simili-parquet.
Tu as donc des enfants qui vivent avec toi?
Dit Nicole.
Ceux que tu as portés? Oui. Nous avons eu deux fils et deux filles par la méthode que tu qualifierais de naturelle. Le premier garçon, Darren, est mort à 11 ans. C'est une longue histoire que je te raconterai demain, si nous en avons le temps. Les autres ont grandi dans des laboratoires à partir d'embryons.
Elles avaient atteint la porte des toilettes.
Sais-tu combien d'enfants l'aigle et ses collègues ont produit de cette manière? Non, mais ils ont prélevé plus d'un millier d'ovules.
Pendant leur retour vers la salle à manger, Simone expliqua que tous leurs fils et leurs filles nés par la méthode naturelle avaient vécu avec eux. Leur conjoint, qui était également les fruits de la semence de Michael et de ses ovules, avait été sélectionné en fonction d'une technique d'appariement mise au point par les extraterrestres.
Il s'agissait donc de mariages organisés,
demanda Nicole.
Tous ont eu le choix entre plusieurs partenaires qui satisfaisaient aux critères génétiques. Et vous n'avez pas eu de problème de dégénérescence chez vos petits-enfants? Rien de statistiquement significatif, pour citer Michael.
La table avait été débarrassée lorsqu'elles revinrent dans la salle à manger. Michael leur annonça qu'il avait porté la cafetière et les tasses dans le cabinet de travail. Nicole les suivit dans cette pièce et fut surprise d'y voir une bibliothèque et une cheminée où se consumaient quelques bûches.
« Le feu est-il réel ? »
voulut-elle savoir.
« Absolument !»
répondit-il en se penchant dans son fauteuil.
Nous souhaitions te faire rencontrer nos enfants, mais nous voulions te ménager.
À 8, nous aurions été moins tranquilles pour bavarder,
approuva-t-elle en goûtant au café.
Tu oublies nos 14 petits-enfants,
dit Simone. Nicole regarda Michael et sourit.
C'est toi qui m'étonnes le plus,
lui avoua-t-elle.
Tu as 40 ans de plus que moi, mais tu me fais penser à un sexagénaire. Tu parais encore plus jeune qu'à mon départ du point nodal. Comment est-ce possible?
Leur science médicale est fantastique. Ils ont pratiquement remplacé tous mes organes. Cœur, poumon, foie, système digestif et excréteur, glandes endocrines. Ils ont tout remplacé par des prothèses plus performantes. Des millions d'implants microscopiques renforcent mes os, mes muscles, mes nerfs et mes vaisseaux sanguins. Ils assurent non seulement les fonctions vitales, mais régénèrent dans de nombreux cas les cellules âgées. Ma peau est faite d'un matériau qui a toutes les propriétés de l'épiderme humain, sans être pour autant sensible à l'écoulement du temps. Je vais à l'hôpital une fois par an. Je reste inconscient pendant 2 jours, et à ma sortie, je suis un autre homme.
Veux-tu approcher que je puisse te toucher ?
Demanda-t-elle en riant.
Je suis un peu comme Saint Thomas.
Il vint s'agenouiller à côté du fauteuil roulant. Nicole caressa son visage. Il avait la peau lisse et souple d'un jeune homme. Ses yeux étaient brillants et limpides.
Et ton cerveau, que lui ont-ils fait ?
Il sourit et elle remarqua qu'il n'avait pas une seule ride sur le front.
Quand ma mémoire a commencé à donner des signes de faiblesse, ils ont modifié mon hippocampe. Ils lui ont même ajouté une extension de leur invention pour augmenter sa capacité. Il y a une 20aine d'années, ils m'ont doté d'un système de gestion plus efficace qui a étendu mes facultés de réflexion.
La lueur des flammes se reflétait sur son visage et des souvenirs de leur amitié, puis de leur moment d'intimité, quand ils avaient cru Richard à jamais disparu, assaillir Nicole.
« Es-tu toujours Michael O'Toole ? Ou es-tu devenu un être différent, mi-humain, mi-extraterrestre ?»
Il se leva et regagna son fauteuil d'une démarche d'athlète.
« Je ne sais quoi répondre. Je me rappelle mon enfance à Boston et tout ce qui a été important dans ma vie. Je n'ai pas l'impression d'avoir changé. »
« Dieu et la création l'intéressent toujours autant. »
intervint Simone.
« Mais ses croyances ont évolué. Nous sommes tous influencés par ce que nous avons vécu. »
« Je me considère encore comme catholique, et je récite quotidiennement mes prières. Mais ce que j'ai vu a modifié mon point de vue sur Dieu et sur l'humanité. En outre, ma foi a été renforcée par les révélations de... »
Il s'interrompit et regarda sa femme qui déclara
Au début, après votre départ du point nodal de Sirius, nous avons ressenti le poids de notre solitude. J'étais une enfant et Michael un homme mûr. Je ne pouvais soutenir une conversation portant sur la physique, la religion ou ses autres sujets de prédilection.
Nos rapports n'en ont pas souffert,
précisa Michael.
Mais nous avions indéniablement besoin de compagnie.
L'intelligence nodale, si ce nom convient à l'entité qui veille sur nous, l'a compris. Elle a estimé que l'aigle ne pouvait nous suffire et a créé pour chacun de nous un compagnon. Ce fut une idée de génie,
dit Simone.
L'agacement qui commençait à menacer notre couple s'est dissipé aussitôt. Et lorsque Saint-Michel...
« J'aimerais le raconter moi-même, ma chérie, »
l'interrompit son mari.
Un soir, environ 2 ans après votre départ, j'ai entendu frapper. Simone était allée dans la chambre pour donner à téter à Katia, et j'ai pensé que c'était l'aigle. J'ai ouvert la porte sur un jeune homme aux cheveux bruns bouclés et aux yeux bleus, la copie parfaite de Saint-Michel de Sienne. Il m'a appris que l'aigle ne reviendrait pas et qu'il serait mon nouvel intermédiaire auprès de l'intelligence nodale.
Saint-Michel avait un savoir encyclopédique sur l'histoire de la Terre, le catholicisme, la physique, et bien d'autres sujets dont j'ignorais tout,
précisa Simone. Michael se leva pour ajouter avec enthousiasme,
et surtout, il acceptait de répondre à toutes nos questions. L'aigle ne s'y était jamais refusé. Mais Saint-Michel n'avait aucune réticence à satisfaire notre curiosité. C'était comme si Dieu lui-même m'avait envoyé un compagnon.
Nicole les regarda tour à tour. Michael était radieux.
Sa ferveur religieuse n'a pas décru, pensa-t-elle. Elle a simplement été réorientée. Ce saint serait-il toujours dans les parages?
S'enquit-elle en terminant son café.
Bien sûr,
fit Michael.
Nous n'avons pas eu le temps de le présenter à Patrick, mais nous voulons absolument que tu le rencontres. Te souviens-tu des questions que se posait Richard sur les constructeurs et la finalité du point nodal et de Rama? Saint-Michel connaît toutes les réponses et il les fournit avec beaucoup d'éloquence.
Seigneur, ça semble trop beau pour être vrai,
fit Nicole avec une pointe de sarcasme.
Quand aurai-je le privilège de faire sa connaissance?
Tout de suite, si tu veux.
Entendu,
répondit-elle en dissimulant un bâillement derrière sa paume.
Mais n'oubliez pas que je suis une vieille impotente et que je ne pourrai pas veiller très tard.
Michael alla ouvrir l'autre porte du cabinet de travail.
Saint-Michel, nous voudrions vous présenter à la mère de Simone.
Quelques secondes plus tard, un jeune religieux en froc bleu foncé entra dans la pièce.
Je suis ravi de vous voir enfin,
déclara Saint-Michel en arborant un sourire béat.
J'entends parler de vous depuis des années.
Nicole tendit la main et l'observa attentivement. Rien ne le différenciait d'un être humain.
Seigneur, non seulement leur technologie est fantastique, mais la rapidité de leur progrès est sidérante. J'aimerais mettre une chose au point,
fit-elle avec un rictus moqueur.
J'ai horreur de faire des manières, et plutôt que de dire « votre sainteté », je vous appellerai Michel tout court. Asseyez-vous près de moi, Michel. Mon gendre a tant vanté vos mérites que je ne voudrais pas que mon ouïe défaillante me fasse perdre une seule de vos précieuses paroles.
Merci, Nicole,
dit Saint-Michel sans se départir de son sourire.
Michael et Simone m'ont également dit le plus grand bien de vous. Mais je constate qu'ils ont sous-estimé votre verve.
Et il a une forte personnalité. Les créateurs de tout ceci me surprendront toujours.
Une heure plus tard, Simone l'avait installée dans la chambre d'amis et elle regardait par la fenêtre, allongée sur le flanc. Bien que très lasse, elle ne trouvait pas le sommeil. Son esprit était en ébullition.
Je devrais demander un somnifère,
se dit-elle en tendant la main vers le bouton de la table de chevet.
Simone m'a dit que Saint-Michel restait à ma disposition et qu'il pouvait faire tout ce dont l'aigle est capable.
Mais elle se ravisa et se rallongea pour laisser vagabonder ses pensées. Elle réfléchissait à tout ce qu'elle avait vu et entendu au cours de la soirée. Michael lui avait expliqué que cette reconstitution d'un coin de la Nouvelle-Angleterre se trouvait dans un secteur du module d'habitation où résidaient plusieurs centaines de représentants d'autres espèces. Elle lui avait demandé pourquoi il vivait seul dans cette enclave.
« Nous avons séjourné dans un milieu multiracial pendant des années »,
avait répondu Michael.
« Au début, nous déménagions sans cesse. Saint-Michel nous a confirmé par la suite que l'intelligence nodale voulait tester nos capacités d'adaptation et notre compatibilité avec un large assortiment de plantes et d'animaux. Nos hôtes désiraient récolter un maximum d'informations sur nous. Nous devions chaque fois relever un nouveau défi. »
Il s'était interrompu, comme pour contrôler ses émotions.
C'était très éprouvant. Dès que nous commencions à nous adapter à nos nouvelles conditions d'existence, nous devions en changer. Je continue de croire que Darren serait toujours en vie si le monde souterrain où nous vivions alors n'avait pas été aussi étrange. Et nous avons failli perdre Katia à l'âge de 2 ans, quand un calmar terrestre a pris sa curiosité enfantine pour une manifestation d'agressivité.
Lorsque les enfants sont devenus des adultes et qu'ils ont à leur tour fondé des familles, nous étions épuisés par tout ce que nous avions vécu,
intervint Simone.
nous avons demandé à bénéficier d'un peu d'intimité et de calme, et cela nous a été accordé.
Il nous arrive de sortir de cette enclave,
dit Michael.
Mais nous avons des contacts avec des êtres originaires de systèmes stellaires lointains parce que nous le souhaitons et non par obligation. Saint-Michel nous tient au courant des faits et gestes des ballons à pattes, des sauterelles rieuses et des tortues volantes. Il est notre lien avec le reste du point nodal.
Saint-Michel est extraordinaire et encore plus perfectionné que l'aigle. Il répond aux questions sans la moindre hésitation, mais une chose m'intrigue. Ses explications concises sur Dieu, ainsi que sur les origines et la destinée de l'univers, ne sont-elles pas de pures affabulations? N'a-t-il pas été programmé pour être le compagnon idéal de Michael? Mais ne suis-je pas jalouse, parce que l'aigle refuse de répondre à mes interrogations, ou en est incapable? Cependant, qui faut-il envier? L'enfant dont le mentor est omniscient et lui fournit toutes les solutions? Ou celui que son maître aide à les découvrir par lui-même? Je ne saurais me prononcer, mais j'ai trouvé la démonstration de Saint-Michel très impressionnante.
Ne vois-tu pas que nous participons à une expérience divine?
Avait demandé Michael en se levant de son fauteuil pour la énième fois.
Dieu a créé d'innombrables univers afin de rechercher la perfection. Il veut déterminer quels paramètres, une fois l'acte de création initié par la transformation de l'énergie en matière, permet d'atteindre après des milliards d'années d'évolution une harmonie parfaite, témoignage de son habileté suprême.
Nicole avait des difficultés à suivre les exposés mathématiques, mais elle saisit l'essentiel des schémas que Saint-Michel esquissa sur le chevalet du cabinet de travail.
Voulez-vous dire que Dieu a créé un grand nombre d'univers dans des conditions initiales différentes et qu'il vous a chargé avec l'aigle, le point nodal et Rama d'accumuler des informations sur cette expérience? Pour lui permettre d'établir une formule mathématique dont l'application donnerait un résultat idéal?
Exactement, répondit Saint-Michel. Il désigna de nouveau son diagramme.
Imaginez que le système coordonné représenté ici soit une représentation symbolique en deux dimensions de toutes les données correspondant au moment de la création, lors de la conversion initiale de l'énergie. Ce que Dieu recherche sur cette hypersurface mathématique, c'est un ensemble clos dont chaque élément, autrement dit la totalité des paramètres à l'instant zéro, produira un résultat qui débouchera inéluctablement sur l'harmonie.
Créer un univers où tous les êtres finiront par proclamer la gloire de Dieu est presque irréalisable,
intervint Michael.
S'il n'y a pas suffisamment de matière, l'expansion se poursuivra à jamais sans que la vie puisse apparaître et subsister. S'il y en a trop, l'intelligence n'aura pas le temps de se développer avant que la gravité ne déclenche la phase de contraction.
Le chaos pose un autre problème,
expliqua Saint-Michel.
C'est un chancre des lois physiques qui régissent l'évolution de tout univers créé. Il fausse les prévisions et empêche le Créateur de déterminer, a priori, ce qui se produira et d'isoler par des analyses les zones d'harmonie. L'expérimentation est pour lui le seul moyen d'arriver à ses fins. Pour que le résultat souhaité soit atteint, il faut non seulement que la vie résulte de l'évolution des particules subatomiques changées en atomes par des cataclysmes stellaires, mais aussi que cette vie atteigne un niveau de conscience spirituelle et de capacité technologique suffisant pour lui permettre de façonner son milieu. Dieu serait donc le grand architecte, l'ingénieur suprême. Il chercherait dans quelles conditions il convient de créer un univers afin qu'après des milliards d'années d'évolution, tous les êtres qui y vivent attestent de son habileté. « Une chose m'échappe, »
avoua-t-elle.
« Pourquoi crée-t-il tant d'univers? Ne suffit-il pas que l'harmonie soit atteinte dans un seul d'entre eux pour qu'il devienne possible de reproduire l'expérience ?
Ce n'est pas son but, répondit Saint-Michel. Il veut connaître l'étendue des zones d'harmonie dans l'hypersurface des paramètres de la création et relever leurs caractéristiques. Par ailleurs, vous ne semblez pas consciente des difficultés. Sur un nombre infini d'univers possibles, seuls quelques-uns ont la possibilité de déboucher sur l'harmonie. Dans la plupart des cas, la matière qui résulte de la conversion de l'énergie est impropre à la vie. Et lorsque cette dernière apparaît malgré tout, c'est presque toujours sous forme de créatures agressives qui détruisent plus qu'elles ne construisent. L'équilibre relève du miracle. Voilà pourquoi cette entreprise représente un tel défi.
Michael se leva une fois de plus. Ce que cherche Dieu, c'est un univers qui atteindra à une harmonie absolue avant de disparaître lors de sa contraction. Pour cela, il faut non seulement que participe à cette quête la totalité des êtres qui l'habitent, mais également toutes les particules subatomiques. Il m'a fallu du temps pour appréhender ce concept, avant que Saint-Michel ne me parle d'espèces qui insufflent la vie à la terre glaise, ce qu'a fait Dieu par transmutation des éléments. Pour qu'il y ait harmonie totale, il est indispensable que toutes les formes de vie évoluées mettent à contribution leur technologie pour transformer ce qui est inanimé en serviteur de cette cause. Nicole déclara que son esprit était saturé et qu'elle avait grand besoin de dormir. Saint-Michel souhaita malgré tout résumer son exposé.
Pour en revenir à notre question, chaque point nodal est un des composants d'une intelligence hiérarchisée chargée de collecter des informations. Il y a au centre de chaque galaxie une station principale que nous appelons un moniteur galactique. Ces moniteurs galactiques, créés par Dieu en même temps que cet univers, doivent récolter un maximum de données sur son évolution. Les points nodaux, les transporteurs et tous les autres appareils que vous avez eu l'occasion de voir ont été fabriqués par le moniteur galactique de la Voie lactée. Toutes les activités ont pour objet de dresser une liste de critères quantitatifs pouvant être utilisés pour que les univers ultérieurs s'épanouissent dans une harmonie parfaite, en dépit des tendances désorganisatrices des lois de la nature.
Voilà qui confond mon imagination, avait dit Nicole en mettant son siège en marche.
Mais je suis épuisé. Pas au point de pouvoir dormir. Comment le pourrait-on après avoir appris dans quel but a été créé l'univers ?
Elle rit. Je me demande ce qu'en aurait dit Richard. Une théorie intéressante, mais qui ne permet pas d'expliquer pourquoi les Africains ont raflé toutes les coupes du monde de 2140 à 2160. Il aurait apprécié Saint-Michel et lui aurait posé des centaines de questions. Et nous aurions fait l'amour, sitôt dans notre chambre, avant de parler de tout cela jusqu'à l'aube.
Elle bâilla et se tourna sur le flanc. Lorsqu'elle s'endormit enfin, elle rêva d'explosions donnant naissance à des univers.